Alors, je vous propose de prendre le texte sur lequel sera la prédication. Jacques, chapitre 3, à partir du verset 1, page 797. Jacques 3, à partir du verset 1, page 797, dans les Bibles qui sont à côté de vous, ou entre vos mains, ou sur vos genoux. Ou sous vous, si vous êtes assis dessus, mais... Jacques 3, versets 1 à 12. « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Je vais vous laisser quelques instants pour relire le texte pour vous-même et vous l'approprier un tout petit peu avant qu'on réfléchisse dessus ensemble. J'ai l'impression que la plupart d'entre vous avez eu le temps de relire un petit peu le texte. Une petite question pour vous. Êtes-vous bavard ou timide? Est-ce que vous vous mettriez dans la catégorie carpe ou dans la catégorie moulin à parole, pour reprendre deux expressions idiomatiques françaises classiques? Alors bon, peut-être qu'en fonction des jours, au fil de la vie, on peut évoluer d'une catégorie à l'autre. Moi, je suis passé de la catégorie timide extrême à bavard à temps partiel, voire moulin à parole parfois inarrêtable. Mais quelle que soit la catégorie dans laquelle vous pensez être en ce moment, ou quelle que soit la catégorie dans laquelle les autres vous placent en ce moment, Jacques a dit « Nous trébuchons tous de bien des manières ». Début du verset 2. Donc même si vous ne parlez pas très souvent, vous êtes concerné par ce texte. Nous sommes tous concernés par ce texte. Alors petit rappel de contexte par rapport à ce texte. Cette lettre a été écrite par Jacques, l'un des frères de Jésus, l'un des frères physiques de Jésus. Jacques s'était converti après la mort et la résurrection de son frère, mais il était devenu assez rapidement l'un des responsables de l'église de Jérusalem. Et il a écrit cette lettre à des chrétiens d'origine juive, sans doute des chrétiens de Jérusalem, donc de sa ville, et des chrétiens qui avaient été dispersés un peu partout dans l'Empire romain à cause de la persécution qu'il y avait à l'époque contre les chrétiens. C'était il y a à peu près 2000 ans. Pour aider ses lecteurs avec leurs problèmes, Jacques a essayé de leur expliquer, ou plutôt de leur rappeler, ce que c'est un chrétien. Donc dans les chapitres 1 et 2, il a donné différents critères qui montrent ce que c'est une foi chrétienne authentique. Une chose sur laquelle il a mis bien l'accent, c'est que la foi en Jésus a toujours des conséquences pratiques et que nos actions prouvent que notre foi est bien vivante. Et ce matin, nous allons parler de l'une des conséquences pratiques du fait d'avoir une foi vivante en Jésus-Christ. Et cette conséquence, c'est par rapport à nos paroles, par rapport à ce que nous disons. Jacques en parle avec beaucoup de lucidité. Et si vous n'avez pas trop l'habitude de la Bible, si vous êtes peut-être là pour peut-être une des premières fois que vous ouvrez une Bible de votre vie, vous découvrirez peut-être ce matin que la Bible n'est pas là pour vous vendre du rêve, mais c'est un livre sur les vrais problèmes et les vrais besoins de chaque homme, de chaque femme, de chaque enfant. Nous allons voir que enseigner, c'est sérieux, que parler, c'est potentiellement dangereux, maîtriser notre langue, c'est vital. Enseigner, c'est sérieux, parler, c'est potentiellement dangereux, maîtriser notre langue, c'est vital, qui correspondent à trois temps du texte. Enseigner, c'est sérieux. Versets 1 et 2. Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. Dans toute sa lettre, le style de Jacques est vraiment direct, très direct. Et dans la Bible, il y a beaucoup de textes un peu directifs, comme celui-ci. Alors assez facilement, on peut se dire, bon, c'est un peu lourd, ces textes sont culpabilisants, fais pas ci, fais pas ça. On peut se dire aussi, bon, je n'arrive pas à faire tout ce que la Bible demande. Il y a trop de règles. En réalité, ces textes sont bons pour nous. Ils sont là pour nous aider à prendre conscience que nous sommes pécheurs, c'est-à-dire mauvais, et à prendre conscience que nous avons besoin de Dieu. Les paroles directives, comme celle de Jacques, ce sont des paroles de bonté. Ce sont des paroles de grâce. Et nous aurions tort d'y voir simplement une liste de règles. Ces paroles sont là pour nous montrer ce que Dieu veut et pour que nous ayons le désir de changer et de demander à Dieu son aide pour changer. Ne soyez pas nombreux à devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés bien sévèrement. Il ne s'agit pas ici de faire en sorte qu'il y ait moins de chrétiens qui postulent à l'éducation nationale pour être prof de maths, d'histoire, d'anglais ou autre. L'enseignement dont il est question dans notre texte, c'est l'enseignement public de la parole de Dieu, l'enseignement public de la Bible. Transmettre la doctrine chrétienne devant un auditoire. C'est un service très important dans l'Église. Et c'est aussi celui dans lequel on peut faire le plus de dégâts si on se trompe. Parce que l'enjeu de l'enseignement de la parole de Dieu, c'est le salut éternel des personnes qui écoutent. L'objectif de l'enseignement de la parole, ce n'est pas de faire un beau discours, même si c'est important de bien travailler la forme de ce qu'on enseigne pour être compréhensible et pertinent. Mais l'objectif fondamental de l'enseignement de la parole, de la prédication, c'est l'évangile de Jésus-Christ. L'objectif, c'est la vérité et la transmission de la vérité. Et la vérité, c'est facile de s'en éloigner sans s'en rendre compte. Par exemple, si un prédicateur ou un moniteur d'école du dimanche s'éloigne de la vérité, c'est la foi de dizaines de personnes qui est en danger, parce qu'il risque d'induire en erreur toutes les personnes qui l'écoutent dimanche après dimanche ou qui téléchargent ses prédications sur Internet. À l'inverse, si un prédicateur ou un moniteur d'école du dimanche enseigne l'évangile de manière bonne, juste et fidèle, c'est la foi de dizaines de personnes qui va être fortifiée. Et ça, c'est quelque chose de génial et de vraiment puissant. Mais bon, une chose est claire, c'est toujours plus facile de répandre des erreurs que de construire la vérité. Vous connaissez peut-être cette expression, c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Quand on a une maison, ça peut mettre des mois, voire des années à la construire, et puis pour la détruire, on amène une grue, une boule, et puis en quelques heures, il n'y a plus rien. c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Donc, il faut éviter que n'importe qui se mette à enseigner la parole de Dieu à tort et à travers. Et c'est un des rôles des responsables dans les églises locales, pasteurs, anciens, diacres, en fonction de l'organisation de chaque église locale. C'est le rôle des responsables de détecter les personnes qui auraient un don d'enseignement public de la parole de Dieu et de les aider à développer ce don. À l'époque de Jacques, les enseignants de la parole étaient très respectés. Donc peut-être que beaucoup voulaient cette position pour de mauvaises raisons, par orgueil ou pour pouvoir avoir de l'influence dans les églises. Et l'orgueil, le désir du pouvoir, ce sont des tentations contre lesquelles doit lutter toute personne qui prend la parole dans l'église, en public. Et moi le premier. Quoi qu'il en soit, quelle que soit votre situation, que vous ayez un don d'enseignement de la parole en public ou pas. Si vous êtes chrétien, je vous encourage à faire de temps en temps cette prière. Seigneur, apprends-moi à bien communiquer ta parole. Seigneur, apprends-moi à savoir bien communiquer ta parole. Même si pendant toute votre vie, le dimanche matin, vous resterez assis à écouter plutôt que devant à parler, si vous êtes chrétien, vous avez tous, à un moment ou à un autre, des occasions de parler de Dieu, avec vos amis, avec vos collègues, ou avec d'autres personnes. Alors bien sûr, c'est pas pareil que prêcher le dimanche matin devant 50 ou devant 1000 personnes. Mais c'est quand même, d'une certaine manière, une forme d'enseignement, en privé. Et tant qu'à faire, autant être équipé pour cela. S'équiper, ça commence par demander l'aide de Dieu dans la prière, lire et étudier votre Bible, pour vous-même, mais aussi lire de bons livres de doctrine chrétienne, peut-être télécharger des enseignements ou lire des enseignements sur des sites internet comme topoursoiglard.com, évangile21.com, Trésor Sonore, Foi en question, ou d'autres, en faisant bien attention, parce que bon, sur internet, il y a à boire et à manger, comme on dit, il y a des sites très bons, et parfois les sites les plus populaires ne sont pas forcément ceux qui sont les plus fidèles à l'Évangile. Donc si vous avez des doutes par rapport à la fiabilité à l'Évangile d'un site ou d'un autre, allez voir KISS ou les autres responsables de l'Église, et ils pourront vous aider peut-être à discerner un peu ce qui sera le meilleur. Pourquoi pas aussi, pour vous équiper, prendre quelques cours de Bible ou de théologie le soir, en e-learning, par correspondance ou le week-end. On est en Ile-de-France, il y a plein de possibilités. Demandez des conseils aux responsables de votre église et ils auront sûrement de bonnes idées, de livres à lire, de choses à écouter, de choses à faire pour consolider votre foi et pour développer votre capacité à la communiquer aux autres. Parce que Dieu appelle ses enfants à prendre leurs responsabilités, pas à les fuir. Et le but de Jacques, ce n'était pas qu'il y ait moins d'enseignement de la parole, moins d'enseignants non plus, mais que les personnes qui utilisent leur langue pour enseigner la Bible le fassent avec de bonnes motivations et soient pleinement conscients des enjeux qui sont derrière. Parce que de toute façon, verset 2, « Nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. » À la place de mûr, dans certaines traductions, on a le mot parfait. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Et du coup, l'argument de Jacques, là, dans le verset 2, c'est de dire « Personne n'est parfait. Vous n'êtes pas parfait. Je ne suis pas parfait. Donc tout le monde est concerné par ce que je suis en train d'écrire. » Bref, enseigner, c'est sérieux, parce que nous ne sommes pas parfaits. Et parce que, de manière générale, parler, c'est potentiellement dangereux. Versets 3 à 8. On va relire les versets 3 à 8. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux. Même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. » Alors là, Jacques ne parle plus du cas particulier de l'enseignement, mais il fait référence à tout type de paroles. Quand on lit ça, le réflexe est de se dire « Ok, application pratique de ce texte, je coupe ma langue. » Parce que bon, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5 que si notre œil est une occasion de péché, il faut l'arracher. Et que si notre main est une occasion de péché, il faut la couper. Et là, on voit clairement que notre langue, c'est la catastrophe. Donc, il faut couper. Logique, non ? Ou alors se taire à tout jamais, tels les moines ermites. Heureusement, on sait que ce n'est pas ça l'application, parce que Jésus utilise beaucoup un langage emphatique. Il utilise des expressions un peu choquantes pour marquer les gens et puis qu'ils réagissent. Voilà, Dieu nous a donné un corps, ce n'est pas pour qu'on le mutile de manière volontaire. Et on sait surtout que ce n'est pas ça l'application, parce que Dieu veut que l'Évangile soit annoncé et que sa volonté soit enseignée à toute l'humanité. Et comment les gens croiront-ils en Jésus s'ils n'en entendent pas parler ? Et si les chrétiens ne peuvent plus parler parce qu'ils n'ont plus de langue, eh bien ça risque d'être un petit peu problématique pour que les gens entendent parler de Jésus. Ouf ! Vous pouvez ranger votre paire de ciseaux. Mais quand même, il faut faire attention. La langue, c'est tout petit. Mais c'est pas parce que c'est petit qu'il faut l'oublier. Le mort des chevaux, le gouvernail des bateaux, la télécommande de la télévision, c'est petit, mais ça met en mouvement quelque chose de bien plus grand. Et ça, c'est positif. Avec nos paroles, nous pouvons faire de grandes et belles choses. Mais il y a aussi beaucoup de négatifs. La langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Verset 5, « Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. » La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Si Jacques avait écrit à notre époque, il aurait peut-être aussi utilisé l'image de l'arme de destruction massive. Une bombe atomique, c'est pas très gros, mais ça tue des centaines de milliers de personnes en quelques minutes, et ça contamine tout ce qu'il y a autour pendant des années. Et des bombes atomiques, on peut en lancer facilement avec nos paroles. Tous les ans, il y a des personnes qui se suicident suite à des rumeurs fausses qui se sont mises à courir sur eux et qui ont rendu leur vie insupportable. Ce sont des drames dont peut-être vous avez été témoin ou vous avez entendu parler autour de vous. Et c'est toujours extrêmement triste et insupportable de pouvoir de vivre cela ou de vivre d'avoir des personnes autour de soi qui vivent cela. Nos mots peuvent tuer. Et j'imagine que vous en êtes conscient. Quel que soit votre âge et quelles que soient vos convictions. Verset 6. Ainsi la langue se trouve parmi nos membres, elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Hep là, Jacques, c'est quoi ce délire ? Moi je suis chrétien, j'ai le Saint-Esprit de Dieu en moi. Comment tu peux dire que ma langue est enflammée par l'enfer ? Ben, c'est très simple. Quand le diable voit les enfants de Dieu se moquer l'un de l'autre, dire du mal les uns des autres, se provoquer et se blesser mutuellement, se livrer à la médisance et étaler leur rancœur. J'imagine que le diable se réjouit profondément. J'imagine qu'il se réjouit profondément et encore plus quand ça se passe dans l'église locale. Encore plus quand ça se passe dans l'église locale. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser, elle est pleine d'un venin mortel. J'imagine que vous êtes au courant, mais nous ne sommes pas encore au ciel. Nous ne sommes pas encore au paradis. Dieu n'a jamais promis que dès qu'on devient chrétien, le Saint-Esprit nous débarrasse totalement et instantanément du péché dans notre vie. Si nous sommes chrétiens, Dieu nous considère comme parfaits. Parce qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes associés à Jésus-Christ, qui, lui, est parfait. Nous nous associons au Fils de Dieu et c'est sa perfection que Dieu voit. Pas la nôtre, pas la nôtre. Parce que nous sommes totalement imparfaits. Même si notre boulot, c'est de désirer changer cela en nous-mêmes avec l'aide de Dieu. Les destinataires de la lettre de Jacques, c'étaient des chrétiens. Donc oui, une langue de chrétien, ça reste un mal qu'on ne peut maîtriser. Le venin est toujours là, et il faut être prudent avec cette bête féroce et dangereuse. Où est la frontière entre informer quelqu'un des défauts d'une autre personne et médire de cette personne? Où est la frontière entre expliquer à quelqu'un ce qu'on pense être bon pour lui ou pour elle et manipuler cette personne? Où est la frontière entre la franchise, dire à quelqu'un ce que l'on pense, et lui dire tout le mal que l'on pense de lui ou d'elle, ce qui est très clairement un manque d'amour? Bien souvent, nous passons de l'autre côté de la barrière sans nous en rendre compte, et parfois même nous le faisons volontairement. Combien de relations brisées ou de personnes démolies par des paroles mal maîtrisées? Alors c'est vrai que tout ça, ça peut paraître décourageant. Jacques a mis beaucoup plus l'accent sur les choses négatives que sur les choses positives, mais c'est parce qu'il veut convaincre ses lecteurs, il veut nous convaincre, qu'il y a urgence à faire attention, qu'il y a urgence à perpétuellement corriger nos comportements. Parler, c'est potentiellement dangereux, donc maîtriser notre langue, c'est vital. Versets 9 à 12, on va reprendre la lecture, verset 9. Par elle, nous bénissons Dieu notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Il y a de l'espoir. Notre langue n'est pas que négative. Elle est simplement très ambivalente. Avec notre langue, tout est possible. Nous pouvons dire des choses géniales, comme les pires horreurs. Mais mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Verset 10. Jacques invitait ses lecteurs à pencher du bon côté, à louer Dieu plutôt qu'à dire du mal des autres, à prononcer des paroles d'encouragement plutôt que dire du mal aux autres. En réalité, nos paroles, elles ne viennent pas de nulle part. Elles sont le symptôme de quelque chose de beaucoup plus profond. Quand on va chez le médecin, souvent, si c'est chez le généraliste, il nous demande de tirer la langue. En examinant notre bouche, il est capable de dire beaucoup de choses sur notre santé. De même, on peut dire beaucoup de choses sur notre cœur et sur nous, en examinant les mots qui sortent de notre bouche. Jésus, la seule personne qui a vécu sur cette terre, Jésus a dit, dans Luc chapitre 6, verset 45, qui s'affiche à l'écran, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. » Sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Nos paroles ne sont que le symptôme de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et voici quelques petites questions pour nous aider à faire un diagnostic personnel. Si vous examinez vos paroles, votre manière de parler, ça dit quoi sur votre cœur? Ça dit quoi sur qui vous êtes? Est-ce que vous insultez facilement les gens? Ou est-ce que vous ne dites que des paroles bienfaisantes? Est-ce que vous avez des problèmes de mensonge ou des problèmes de médisance? Ou est-ce que vous dites toujours la vérité au bon moment? Et je précise bien au bon moment parce que parfois, dire la vérité au mauvais moment peut être aussi dévastateur que dire des choses fausses. Est-ce que nos paroles sont trop critiques ou trop cyniques? Ou au contraire, est-ce qu'elles reflètent la grâce de l'Évangile? C'est important de réfléchir à ces choses et de ne pas se laisser emporter par la facilité. C'est facile de se dire « Bon, en fait, moi, je ne maîtrise pas mes paroles. C'est comme ça que je suis, c'est tout. » Non. Dans le chapitre 1 de la lettre de Jacques, on peut lire « Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. » Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ne pas réussir à maîtriser tout ce qu'on dit, c'est normal. Surtout si on est de tempérament bavard ou extraverti. Et c'est parce que c'est difficile que Jacques a écrit tout ça. Mais ne rien maîtriser de ce que l'on dit, c'est dangereux. Parce que certes, si on laisse aller nos paroles, l'amour qui est en nous s'exprimera de manière plus libre, mais notre péché aussi s'exprimera de manière plus libre. Notre société nous dit de suivre ce que nous dit notre cœur. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un peu un mantra, un slogan, une idée qui, ces dernières années, se retrouve un peu partout, dans les médias, dans les films, dans les chansons, dans les livres, partout, dans la pub. Suivre ce que nous dit notre cœur, ce n'est pas toujours une très bonne idée. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, mon cœur, il est souvent mauvais. Mais bon, je sais pour vous parce que la Bible le dit, notre cœur est souvent mauvais. Donc il faut toujours réfléchir avant de suivre nos sentiments. Même si parfois, je dis bien parfois, si nous appartenons à Christ, Dieu utilise nos impulsions pour sa gloire. Et il nous inspire de très bonnes choses à dire. Mais bon, le message de l'évangile appliqué à la langue, c'est la maîtrise de soi. Ce n'est pas « suis ton cœur, suis tes sentiments », mais ce serait plutôt du genre « demande à Dieu de l'aide pour transformer ton cœur mauvais et discerner ce qu'il est bon de dire et de faire ». Avec l'aide du Saint-Esprit, nous pouvons apprendre à maîtriser progressivement nos paroles. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à être patients au lieu de réagir toujours au quart de tour. Nous pouvons demander à Dieu de nous aider à ce que nos paroles soient plus souvent justes et bienfaisantes que violentes et destructrices. Et si vous n'êtes pas encore croyant ce matin, que vous êtes là peut-être dans une église pour la première fois, ou que vous venez régulièrement mais sans avoir encore décidé de suivre Jésus, sachez que dès lors que l'on donne sa vie à Dieu, à travers Jésus, Dieu nous aide à avancer sur ces sujets-là. Il suffit de lui demander et de reconnaître humblement que nous avons besoin de lui. Et c'est une aide inestimable. Même si tout ça, c'est un combat sur du long terme, avec des hauts et des bas, et que nous-mêmes, souvent, on ne voit pas forcément qu'on progresse. Ça fait bientôt 30 ans que je suis chrétien, et clairement, j'ai encore pas mal de boulot par rapport à ma maîtrise de mes paroles. Mais ce qui est chouette, c'est que quand on commet des erreurs, eh bien, il existe un remède, et c'est le pardon et la repentance. Le pardon qui anéantit les œuvres du diable, le pardon qui rétablit les relations, la repentance qui permet de changer de comportement et de nous tourner toujours plus et toujours à nouveau vers Dieu. Jésus a dit « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent ». Nous avons toujours besoin du pardon de Dieu. Nous avons toujours besoin de demander l'aide de Dieu. Maîtriser notre langue, c'est vital. Pour conclure, enseigner c'est sérieux, parler c'est potentiellement dangereux. Maîtriser notre langue, c'est vital. Tout ce qu'on vient de voir, c'est un combat à mener au quotidien. Un combat dans lequel Dieu nous aide si nous sommes disciples de Jésus. Faire circuler des rumeurs et dire du mal des gens, c'est une activité très courante dans le monde du travail, dans les cours de récréation, dans les églises ou même simplement sur Internet. Dans ce genre de circonstances, apprendre à écouter sans participer, apprendre à rétablir la vérité avec douceur et sagesse quand des choses fausses et méchantes sont dites. Ce sont des choses sur lesquelles le Saint-Esprit peut nous aider. De même, râler en permanence devant les autres quand on est au travail ou à la fac ou à l'école ou au collège ou au lycée, c'est le sport national en France. Mais en tant que chrétien, ça pose problème. Si nous ne vivons pas la joie de Christ dans les lieux où nous passons le plus de temps pendant la semaine, où allons-nous la vivre ? 2-3 heures par semaine à l'église ? Non. Partout où nous sommes. Parlons avec sagesse. Sachons demander pardon aux autres, parce que dans le monde, c'est rare, et les gens le remarquent. Apprenons l'art d'encourager les personnes qui sont autour de nous, que ce soit dans l'église, mais aussi avec nos camarades de classe, nos profs, nos chefs, nos collègues, nos amis, nos collaborateurs, les membres de nos familles. Cette partie de l'épître de Jacques que nous venons de voir ce matin, c'est peut-être la partie la plus facile à comprendre de toute cette lettre de Jacques. Et si jamais vous avez encore jamais lu en entier cette lettre de Jacques, c'est assez court, je vous encourage à la lire peut-être cet après-midi ou ce soir avant de vous coucher. Ça fait juste 2-3 pages. Donc, et ce chapitre 3, c'est peut-être, vous verrez, c'est le plus facile à comprendre. Mais c'est sans doute aussi la partie de cette lettre la plus difficile à mettre en pratique dans nos vies. Et d'ailleurs, Jacques a traité du sujet des paroles et de la langue, mais je pense que s'il avait écrit à notre époque, il aurait inclus aussi les réseaux sociaux. Tout ce que nous écrivons sur Facebook, sur Instagram, sur des blogs, sur Twitter, sur WhatsApp, ou même par SMS, ou par mail. Comme tout se fait de manière très rapide, voire très 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 rapide, on ne prend pas toujours le temps de bien réfléchir à ce qu'on écrit, et ça peut très vite déraper. Donc tout ce qu'on a dit depuis 30 minutes, vous pouvez aussi l'appliquer à tout ce qui passe par votre smartphone et par votre ordinateur. Je vous invite à prier. Notre Père qui es aux cieux, sois béni parce que tu es, non pas juste aux cieux, mais tu es avec nous, par ton Esprit Saint, chaque jour. Merci parce que en Jésus, nous avons un exemple parfait, un modèle de vie absolu. Merci parce que tu, par le texte que nous voulons de voir, nous avons, par ces écrits de l'apôtre Jacques, des exemples de comment nous pouvons changer les choses. Nous devons changer des choses en nous pour pouvoir ressembler plus à notre modèle Christ. Aide-nous à maîtriser nos paroles, aide-nous à être encourageants par nos paroles pour les autres. Aide-nous, Seigneur, à fuir la médisance, la calomnie, tout ce qui, par nos paroles, pourrait relever du péché. Aide-nous, au contraire, par tout ce que nous disons et tout ce que nous faisons, à refléter ton évangile et à être des témoins de Christ, partout où nous sommes, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7, Seigneur, pour ta seule gloire. Amen. Donc c'est la fin de ce temps d'enseignement. Si vous avez des questions ou des réactions par rapport à ce que j'ai pu dire ou par rapport à ce texte de Jacques 3, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de cette rencontre. Et que Dieu vous bénisse.